Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je commence ce matin par cette étude concernant ce qu'on pourrait appeler les enfants de la DPJ. C'est Katia Gagnon dans la presse qui a obtenu les résultats d'une très, très grande étude où on découvre finalement que dans la moitié des cas des enfants de la DPJ, où la santé et la sécurité est en cause, c'est la négligence des parents qui est le premier élément de responsabilité. Je vous le dis, quand on voit les chiffres, d'abord on sursaute d'apprendre qu'au Québec, il y a un enfant sur cinq qui, dans sa vie, sera signalé. Ça m'apparaît énorme. Et je regardais la méthodologie, là, je ne suis pas un expert, mais ça semble être bien fait puis très rigoureux. Donc, c'est quand même énorme. D'apprendre aussi que parmi tous les cas signalés, il y a beaucoup d'enfants qui vont faire l'objet de prise en charge par les services sociaux. C'est un enfant sur 10, puis un sur 20 qui va être sorti de son milieu familial. Serez-vous étonné d'apprendre que les enfants qui grandissent dans des milieux défavorisés, plus pauvres, sont plus vulnérables et sont souvent surreprésentés dans le portrait de la DPJ. Je pense qu'il n'y a pas de surprise là. Mais c'est quand même, disons, troublant. Dans un contexte, on sait, on parle actuellement d'inflation, de pénurie de logement, puis de se dire que plus tu vis dans la pauvreté, plus tu risques d'avoir, malheureusement, de faire l'objet d'un signalement. Puis ça arrive aussi alors que la bâtonnière du Québec, ce qui n'a pas plu au ministre Jolin Barrette, a fait une sortie en disant que le système de justice de la jeunesse est d'une lourdeur, il manque de ressources, c'est toujours le même discours, et on n'est pas capable non plus de fournir adéquatement les services à beaucoup de jeunes. Remarquez qu'il y ait des signalements, c'est en soi une bonne chose, que des enfants ne souffrent pas en silence, que des adultes aient le courage de dire « il y a un problème » et qu'on soit capable d'intervenir, c'est bien correct. Mais en même temps, c'est une pression énorme sur le système parce que dans les faits, l'encadrement puis les ressources sont assez rares quand même. Alors, on va y revenir un peu plus tard ce matin. Puis je parlais de pauvreté. Tu sais, il y a une réalité là qui nous arrive de plus en plus de façon concrète. Le président de Centraide, Claude Pinard, participait hier donc au lancement de la campagne annuelle de Centraide. Et il dit, grosso modo, que 800 000 personnes dans le Grand Montréal, donc territoire de Centraide, profitent de l'aide des services de 375 groupes communautaires ou organismes communautaires. 800 000 personnes. Quand on mentionnait l'autre jour que des gens qui travaillent ont besoin d'aide, notamment dans les banques alimentaires, c'est une réalité. Et il insiste pour dire que la crise du logement abordable, ben, ça plonge les personnes dans la pauvreté. Donc, c'est un peu cette spirale ce matin que je voulais illustrer avec vous, parce que on parle souvent du panier d'épicerie, on parle souvent du logement, puis ça a des effets réels, tu sais. C'est assez clair et disons que c'est prouvé. Bon, le dossier de l'Inde maintenant. On ne sait pas beaucoup de choses additionnelles. Hier, l'Inde a émis un avertissement pour ses voyageurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants étrangers qui arrivent au Canada en provenance de l'Inde. C'est à peu près 40 % du volume au Canada, principalement dans l'Ouest, l'Ontario. Et donc, en disant que ce que le Canada a fait en pointant du doigt, en accusant l'Inde d'être commanditaire d'un meurtre, c'est de générer de la haine, de l'agressivité, une forme d'intolérance, et que les Indiens sont à risque. Ce qui a fait sursauter le gouvernement fédéral qui a dit « on n'a pas dit ça, on n'a pas prétendu ça ». Donc, on sent que c'est une joute verbale aussi. Il n'y a rien de nouveau, en tout cas de connu dans l'enquête. Il n'y a pas de preuve qui soutient l'affirmation de M. Trudeau voulant que des agents du gouvernement indien aient commis ou organisé ou financé le meurtre de ce personnage de la communauté sikh, personnage parce que c'est un leader considéré comme ultranationaliste et pour le gouvernement indien est en fait un terroriste qui est venu se cacher au Canada. Et on a beaucoup parlé de ces enjeux. Donc, qu'est-ce qui a amené M. Trudeau à faire la sortie? Quelle information lui a-t-on donné pour prendre une telle décision et créer des tensions? Ce matin, le New York Times parle de la situation extrêmement difficile pour le président Biden, qui a dit, quand on lui a posé la question, qu'il était préoccupé, mais il n'a pas condamné l'Inde parce qu'il n'y a pas les faits pour le faire. Et j'ajouterais également que cette volonté de tisser des liens beaucoup plus étroits avec l'Inde pour faire ce que je disais plus tôt cette semaine, ce contrepoids avec la Russie et la Chine, évidemment, quand le Canada prend une telle position, ben ça vient pas mal compliquer les choses. Et Radio-Canada qui nous dit qu'en matière de sécurité nationale, Ottawa accuse un retard de près de 20 ans. Et ce sont les gouvernements, les entreprises qui peuvent faire l'objet d'ingérences, d'espionnage industriel. On a vu toutes les attaques informatiques. Je pense qu'il y a encore Air Canada où il y a un enjeu de données confidentielles sur les employés. Il y a des gens qui ont réussi à entrer, je pense, hier. Là. En tout cas, ça a été confirmé hier par Air Canada dans le système. Donc, on voit là, des enjeux importants concernant la sécurité nationale. Je vous parlais des étudiants étrangers. Je ne sais pas où s'en va M. Trudeau avec ses cibles en matière d'immigration. Mais on prévoit là qu'en 2027, il y aura 1,4 million d'étudiants étrangers au Canada. On comprend que c'est le pactole pour les universités. Et ça augmente à une cadence là incroyable. En soi, de voir des gens venir étudier, dans bien des cas, rester au Canada... Je pense au Québec, des gens qui viennent donc à l'université, parlent français ou apprennent le français, se greffent à la communauté, c'est parfait. Mais c'est beaucoup de monde, là. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Plus les autres immigrants, avec des cibles délirantes, là. La capacité d'accueil, même si certains pensent que ça veut rien dire, là, ça peut se résumer de la façon suivante. Est-ce qu'on a assez de place pour recevoir tout ce monde-là, puis la crise du logement, puis la crise de la main-d'œuvre. Oui, mais ils vont créer des jobs. J'aime beaucoup l'expression de mon ami Luc Ferrandez. C'est pas vrai qu'ils arrivent ici avec la maison sous le bras, là. Ça leur prend un logement. Et là, ce sont les chiffres qu'on retrouve ce matin dans le Globe and Mail. Aux États-Unis, les Américains vont permettre à 500 000 citoyens du Venezuela de pouvoir travailler légalement. Et vous le voyez aussi à New York, l'arrivée de ces migrants. Je voyais une petite ville au Texas, je pense que c'est 30 000 de population. Il en est arrivé 2 500. Ce qui vient complètement débalancer la capacité d'aider puis de fournir un minimum à ces gens qui arrivent ici. Manifestation à Montréal, mais ailleurs au Canada, concernant l'identité de genre. Donc, gens qui s'opposent farouchement à ce qu'on reconnaisse certains droits, que ce soit le changement de prénom, le changement de genre dans l'approche, dans l'identité. On voudrait permettre aux jeunes, par exemple, de cacher l'information à ses parents. Il y a deux provinces qui pensent même utiliser la clause dérogatoire parce qu'ils considèrent que on ne peut pas... laisser aller les enfants comme ça. Le message qui est envoyé, c'est un peu celui-là. Et je regardais ça hier, là. Si on résume, d'abord, on parle quand même d'un phénomène marginal, extrêmement marginal. mais d'un phénomène réel. Il y a des enfants qui ne sont pas bien dans leur peau. Il y a des enfants qui se cherchent. Et je pense que la réponse la plus intelligente, c'est de les comprendre, puis de les accueillir. Puis je dis pas ça là pour faire cliché, là. Je pense que c'est ça qui est important. Est-ce qu'on doit accepter toutes les demandes d'accommodement? Non. Il y a des réalités physiques. Et je me rappelle, quand je parle de gens qui sont pas bien dans leur peau, je pense à Louise Portal. Vous allez me dire pourquoi. Dans son livre, elle raconte que son père Marcel, qui était médecin, puis là, on est dans les années 30-40, là. Donc, Marcel a marié sa mère. Ils ont eu des enfants, famille heureuse. Bel job. Directeur d'hôpital, il n'y avait pas 30 ans, dit-elle dans son livre. Mais il était homosexuel. Pour lui, c'était une tare, puis il fallait cacher ça. Elle a parlé avec Louise, sa fille, mais tu comprends, t'es à Chicoutimi dans les années 40, là, tu parles pas de ça. Même si t'as des pulsions, t'as des émotions, mais pas un mot là-dessus. Et imaginez des enfants qui se sentent pas bien, là, puis qui se cherchent, qui voient des adultes se pogner comme ça dans le milieu de la rue. Puis des enfants qui se font traîner là. Puis là, je le sais, parmi les groupes, là, on retrouve une bonne gang de complotistes qu'on a connus à l'époque de la COVID puis de la vaccination. On retrouve aussi des gens religieux. Puis quand je vois, c'est toujours frappant, là, parce qu'on a associé les catholiques de droite qui manifestaient devant les cliniques d'avortement à ce mouvement d'intolérance puis d'extrême droite. De voir des gens, par exemple musulmans, qui dénoncent l'ouverture sur des minorités sexuelles, c'est assez particulier de voir ça quand même. Je dis pas qu'il faut tout accepter, mais il faut faire au moins assez, je dirais, de faire l'effort de comprendre pourquoi ces gens-là. Et là, il y a Maxime Bernier. J'ai entendu ça à TVA. Je vais vous le faire entendre ce matin. C'est pathétique. On écoute ça.
Ça n'existe pas. Un jeune garçon est un jeune garçon, une jeune fille est une jeune fille. Et plus tard, peut-être en grandissant, ces jeunes-là vont devenir gays ou lesbiennes.
OK, tu vas grandir à 20 ans, puis alors qu'il y a des enfants qui, c'est à 7-8 ans, puis il faut écouter ce qu'ils ont à dire, tout simplement, puis ils sont peut-être pas à l'aise de le dire chez eux, mais puis ils savent peut-être même pas ce qui leur arrive. Et là, de penser que les profs, moi, quand j'entends ça, là, que là, les profs sont en train de programmer nos enfants pour les faire changer d'identité ou de genre, là, puis qu'il y a des programmes qui existent dans les écoles. Hey, come on, là. On n'est pas dans ça. Mais c'est dérangeant. C'est dérangeant. On va parler avec le chef du Bloc québécois qui, lui aussi, trouve ça assez difficile. Puisqu'on parle des jeunes, il y a une enquête de Statistique Canada qui montre que 60 % des jeunes sont inquiets, avec raison, de la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation, de l'accès à la propriété. Quand on parle des jeunes de 15 à 29 ans. L'aéroport Montréal-Trudeau. On va parler avec le ministre Pablo Rodriguez. Ce matin, dans la presse, Yves Boisvert commente ça. Il y a également un texte, le titre, c'est « Les sept plaies de Montréal-Trudeau ». Que ce soit les services de douane, que ce soit l'accès pur, le transport en commun, c'est une farce, là, faut payer en argent. Des problèmes dont on a beaucoup parlé depuis le début de la semaine. Et ce que ADM répond, c'est donnez-nous de l'argent. Parce que la pandémie nous a coûté cher et comparativement à d'autres aéroports, on n'a pas eu le soutien financier requis. L'autre constat qu'on peut facilement faire aussi, il n'y a jamais personne de responsable. Et l'industrie du voyage au Canada, malgré l'adoption d'une charte par le gouvernement libéral, là, c'est une farce quand tu compares avec ce qui se passe ailleurs. Et je vais raconter tantôt l'histoire de quelqu'un qui a acheté un billet d'avion. Une affaire, là, supposément, pas compliqué, et qui devient un cauchemar dans la maison des fous pour obtenir un remboursement quand la compagnie elle-même annule le vol pour décider de faire autre chose. tu sais, quand Boisvert écrit que c'est le pire aéroport au monde, puis que là, on est dans les comités, puis la STM se demande ce qu'on doit faire de plus, on va ajouter quelques circuits. Sérieusement, ça fait dur. Rapidement, je fais le tour de d'autres nouvelles. Journal de Montréal qui nous parle, évidemment, de cas isolés, là, de 4 infirmières québécoises qui ont encaissé un salaire d'un demi-million l'an dernier. Salaire de base, le temps supplémentaire à la tonne, les primes, etc. Mais là, c'est une infirmière clinicienne à Laval, 530 000, une infirmière en Estrie, elle fait 300 000 piastres de temps supplémentaire. Puis là, on ne sait pas si c'est du TSO ou du temps supplémentaire volontaire. Je comprends que ce sont des cas d'exception. Mais quelqu'un qui veut travailler autant, disons que, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est sûr, là, puis qui n'a pas de vie. Mais ça arrive au moment où on nous dit que dans le domaine de la santé, les deux tiers des professionnels, ça comprend les infirmières, estiment que les soins qu'ils prodiguent aux patients ne sont pas conformes en raison de la surcharge de travail. Ce qui est vrai, ce qui peut amener des erreurs, par exemple, dans la distribution des médicaments, on a déjà vu ça, puis bon. Mais comment peut-on penser faire autant de temps supplémentaire, travailler autant d'heures dans une année sans d'abord s'épuiser soi-même puis sans en même temps mettre à risque le patient qu'on veut servir? Et aussi ce matin, toujours dans le Journal de Montréal, la Société d'assurance automobile pense peut-être à limiter le nombre d'essais pour obtenir un permis de conduire. Un cas extrême, c'est une femme qui a passé l'examen 120 fois. 120 fois. Et n'a pas été capable de réussir. Puis il y a 5 personnes qui ont dépassé les 90 essais pour obtenir un permis de conduire. Alors, visiblement, il y a un problème. Ce qui fait que, du côté de la Société d'assurance auto, on pense peut-être se dire qu'il faudrait limiter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent assez régulièrement quand il y a un échec, ils ont l'impression que c'est une façon pour la Société d'assurance auto d'augmenter les revenus. Et les gens magasinent leur succursale pour l'examen, pas juste pour le délai d'attente, mais il y a des rumeurs qui circulent. Vous savez, les jeunes qui se parlent entre eux, va à telle place, plus facile, va pas à telle succursale, pas mal plus dur, l'examen, ou sur la route, par exemple. Moi, j'ai frappé un derbête, il m'a fait couler, puis etc. Et donc, des gens qui reprennent 2-3 fois, puis que ça a l'air de, tu sais, on va te faire couler, puis tu reviendras. Évidemment, la Société d'assurance auto, quand on leur pose la question, nous dit que c'est faux, totalement faux. Mais il me semble que si t'es pas capable, après 120 fois, d'avoir un permis de conduire, je laisserai tomber, là. 90 fois, je laisserai tomber aussi.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Nous entrons tranquillement dans le corridor qui nous amène vers l'automne. Et on le sait, on regarde autour de nous, il y a eu une augmentation du nombre de cas de COVID, puis d'autres virus respiratoires aussi. Ce que je vais dire est pas scientifique, mais comme on sait, l'immunité est pas mal installée, les gens ont déjà eu la COVID, il y a eu la vaccination, mais ceux qui l'attrapent développent, dans la grande majorité des cas, des symptômes mineurs. Là, je vois quand même des experts, j'ai vu ça entre autres à TVA hier, qui nous prépare à vivre une triple épidémie de virus respiratoires cet automne au Québec. Et je cite le docteur Nicolas Brousseau, qui est médecin en santé publique de l'Institut national de santé publique du Québec. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on a une situation qui se détériore? On va faire le point avec le docteur Carl Weiss. Docteur Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Est-ce qu'on est en route vers une triple épidémie au Québec?
Alors, à mon sens, non. C'est un mot qui a été beaucoup utilisé, je pense, qui fait peut-être un petit peu peur. Ce qu'on sait, c'est que à son arrivée, à son début, la COVID a pris tout le marché. Et donc, par exemple, la grippe, l'influenza avait complètement disparu. Le virus respiratoire syncytial avait quasiment disparu. Et quand on parle de triple épidémique, finalement, ce qu'on dit, c'est que on va se retrouver dans une phase d'endémicité comme on connaissait dans le passé. Et dans le passé, on avait une épidémie qui était double, qui était à la fois le RSV et l'influenza. Là, on vient de rajouter un troisième joueur qui est la COVID-19. Donc, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une saison respiratoire qui va être une saison où on va avoir à la fois de la grippe, à la fois du RSV, puis maintenant à la fois de la COVID-19. Donc, c'est pas quelque chose d'inhabituel, c'est pas quelque chose qui devrait faire peur aux gens. Je pense que ce que ça dit surtout, ça dit que la COVID s'est installée maintenant comme un virus endémique avec lequel on va devoir vivre pendant très longtemps, comme on vit avec le RSV, comme on vit avec la grippe, et je ne cite même pas tous les autres virus, parce qu'il y a des autres virus qu'on appelle le para-influenza, le métapneumovirus, il y a toute une liste de virus, d'ailleurs qu'on suit de façon relativement régulière dans les hôpitaux de microbiologie au Québec, et qui font partie de notre environnement.
Les cas qui ont été détectés jusqu'à maintenant, vous me corrigerez là, mais ce sont des gens qui ont eu des symptômes mineurs, peu de cas à l'hôpital quand on compare aux autres périodes qu'on a vues. Autrement dit, on vit avec la COVID, puis quand on l'a, on s'en sort aussi, là.
Tout à fait. Alors, la première chose, c'est qu'il faut définir ce que c'est mineur. Pour moi, mineur, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être hospitalisé. Parce que des fois, il y a des gens qui vont dire, j'ai eu la COVID une première fois, j'étais pas très malade, je l'ai eu la deuxième fois, j'étais pas mal plus malade. Mais quand je leur dis, expliquez-moi ce que c'est pour vous pas mal plus malade, ben, finalement, ils étaient plus malades, ils le pensaient, mais ils étaient pas très malades. C'est-à-dire, ils étaient chez eux, ils ont pas eu besoin d'oxygène, ils ont pas eu besoin d'être hospitalisés, etc. Donc, pour moi, c'est pas très malade. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, je pense, qui est importante à souligner, c'est que la COVID, pour l'immense majorité de la population qui a été vaccinée, c'est une maladie qui est relativement bénigne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, les gens sont capables d'être traités comme il faut, et habituellement, c'est relativement limité dans le temps. Donc, ça n'a plus du tout la même phase qu'on avait auparavant. On voit une augmentation des hospitalisations parce qu'on augmente les hospitalisations de tout, et on hospitalise beaucoup de gens qui ont la COVID, mais qui ont 50 trop autres affaires en même temps. Alors, il y a des gens hospitalisés en psychiatrie qui ont la COVID, des gens hospitalisés en chirurgie qui ont la COVID, des gens hospitalisés pour des conditions hématologiques parce qu'ils ont des cancers et ils ont la COVID, mais des gens qui sont hospitalisés pour la COVID comme premier diagnostic qui les rend très, très malades, on en voit très, très peu, et souvent, c'est des gens qui sont extrêmement à risque de beaucoup d'autres complications, et la COVID n'est qu'une des maladies au milieu d'un océan d'autres maladies. Donc, on n'est plus du tout là, et le nombre d'hospitalisations aux soins intensifs dues à la COVID ou avec la COVID est, lui, resté très, très bas et très faible.
Bon, beaucoup de parents vous écoutent. On se souvient l'an dernier, quand il y a eu cette vague du virus syncytial qui a amené une pression sur les hôpitaux pour enfants, notamment. Est-ce qu'on peut voir ce qui va se produire cette année? Est-ce que là, les enfants sont mieux protégés? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
Écoutez, c'était un petit peu une boîte à surprises, mais à mon sens, la vague ne sera pas aussi grande qu'elle a été dans le passé, parce que dans le passé, on a eu une espèce d'année de rattrapage pour le RSV, c'est-à-dire qu'on a dû rattraper ce qu'on avait perdu pendant 2-3 années. Donc, il y a eu une espèce d'épidémiologie de rattrapage, et à ce moment-là, écoutez, ça, c'était quelque chose qu'on ne verra pas, à mon sens, cette année. Oui, il y aura du RSV. Au passage, il existe maintenant, c'est nouveau, un vaccin contre le RSV. On pourra en discuter une autre fois, qui est un nouveau vaccin qui arrive surtout pour les personnes âgées. Mais moi, je vous dirais, de façon pratico-pratique, on n'aura pas la vague de RSV qu'on a eue dans le passé.
Bon, le gouvernement a annoncé qu'il y aura des centres de vaccination là, qui vont ouvrir leurs portes. Le vaccin Nouvelle Mouture a été approuvé. Il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce qu'on peut avoir les deux vaccins, vaccin COVID, vaccin influenza en même temps? Est-ce qu'il y a un enjeu là?
La réponse est oui, même, je vous dirais, c'est même encouragé parce que vous pourriez faire d'une pierre deux coups. Donc souvent, lorsque les gens vont aller se faire vacciner, s'ils veulent recevoir les deux, ils pourraient recevoir les deux.
Et l'autre question que les auditeurs posent énormément, souvent, on regarde ce qui se passe ailleurs. Je prends l'exemple de l'Australie, l'hiver australien. Qu'est-ce que la situation en Australie nous dit sur ce qu'on va vivre dans les prochains mois?
C'est difficile d'extrapoler, mais c'est sûr qu'ils ont eu une saison d'influenza qui a été, on va dire, moyenne. Ça n'a pas été une catastrophe. Ça n'a pas été non plus une saison qui était complètement absente d'influenza. Donc, c'était une saison qui était, je vous dirais, régulière. À mon sens, on devrait avoir une saison qui va être régulière en termes d'influenza parce que l'influenza va devoir quand même compétitionner avec beaucoup d'autres virus dans notre environnement, entre autres le RSV, entre autres la COVID, etc. Donc, et puis avec les gens qui ont quand même des couvertures vaccinales, parce que les gens vont quand même aller se faire vacciner, je pense qu'on ne devrait pas avoir des saisons d'influenza. Maintenant, il y a toujours des surprises, vous savez. Il y a des années de gastro-entérite où il y a beaucoup de gastro qui peuvent sortir. Ce qui va vraiment aussi déterminer la façon dont la fragilité de notre système de santé, qui est extrêmement fragile, qui a peu de réserves, qui n'a pas beaucoup de personnel, etc., comment on va passer au travers de tout ça, ça va dépendre beaucoup de l'organisation au niveau du système de santé, des mesures de protection qui vont être mises en place, entre autres pour éviter, par exemple, d'avoir des éclosions sur des unités, d'avoir des éclosions dans les CHSLD, etc. Parce que vous le savez, dès qu'il va avoir des éclosions ici et là, le système va être mis sous pression de façon importante. Et ça va donc utiliser des lits, limiter le nombre de procédures, limiter le nombre de salles d'opération, etc. Donc il faut vraiment mettre en place un système pour éviter au maximum, évidemment rien n'est parfait, mais par exemple c'est sûr que la remise en place des masques dans les soins hospitaliers serait probablement une bonne chose, qui est déjà commencée par exemple même dans certains hôpitaux au Québec comme le CUSUM, mais par exemple c'est fait dans d'autres provinces, l'Ontario, la Colombie-Britannique, beaucoup ailleurs aux États-Unis, dans beaucoup de pays européens, bien sûr en Asie où c'est déjà très très implanté. Donc vous avez des pays comme le Japon ou la Corée où il n'y a aucune discussion sur le fait du port du masque universel à l'intérieur du système hospitalier. Évidemment, on ne parle pas de porter le masque à l'extérieur ou de réinstituer le masque dans la communauté, mais ça, je pense que c'est un point important. Puis l'autre point important, vous savez qu'on a beaucoup de tests disponibles qui n'ont pas été utilisés, qui sont dans des hangars, on ne sait pas trop ce que ça fait. Il faudrait les distribuer le plus vite possible avant leur date de péremption pour que les gens puissent se tester éventuellement s'ils ont des symptômes et pour qu'ils puissent prendre des mesures adéquates, parce que si vous savez que vous avez la COVID, eh bien à ce moment-là, vous n'aurez peut-être pas besoin d'aller dans une réunion, dans une rencontre ou quoi que ce soit. Là.
Merci beaucoup, Dr. Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir. Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste, il est à l'Hôpital Général Juif à Montréal. Je sais que pour ce qui est des tests, il y a eu comme un enjeu, parce que dans les pharmacies, il fallait payer quand même un certain montant. L'État va en distribuer aussi, dit-on, dans les fameux centres permanents. On pourrait aller en chercher de vaccination. Et la conclusion, je pense, que de ce matin, c'est de dire il y en aura des cas de COVID, là, puis il y aura des cas de gens qui vont avoir la grippe, puis des enfants qui vont avoir aussi le virus respiratoire. Mais tout ça pour calmer un peu le jeu. Il y a des anxieux, des gens qui ont peur, puis qui ont peut-être des raisons médicales d'être plus inquiets. Puis il y a des gens qui carburent au complot, là, puis qui sont convaincus qu'on est en marche vers un autre automne de confinement puis des mesures de restriction. C'est pas le même portrait. Puis je pense que faut avoir l'honnêteté d'en discuter comme ça ouvertement sur la place publique. Je le fais parce que je vois des courriels passer qui m'hallucinent, là, sur des gens qui... On dirait qu'ils aimeraient ça, là, que ça reparte, là, t'sais, pour pouvoir les convaincre qu'ils avaient donc raison, puis que les vaccins, c'est ridicule, puis que, vous voyez, ça recommence, puis bon. Alors, la conclusion, c'est que la COVID fait partie de nos vies, comme d'autres types de virus qu'on voit comme ça maintenant. Mais l'avantage, par rapport à il y a 3 ans, 4 ans, c'est qu'on est maintenant mieux protégé collectivement pour y faire face.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
« Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Mettons la table ce matin en parlant d'un contexte général. Le président de Centraide qui lançait sa campagne disait hier que 800 000 personnes dans le Grand Montréal ont besoin de l'aide de groupes communautaires, de banques alimentaires. Donc des gens qui, dans bien des cas, évidemment, travaillent, mais ça ne suffit pas. Que la crise du logement est un impact réel au quotidien pour des gens qui se retrouvent en situation économique précaire. Ce matin, la presse nous apprend qu'une étude détaillée, d'une étude sérieuse, qu'un enfant sur cinq au Québec va faire l'objet d'un signalement. Et on nous apprend aussi que un sur dix, va également faire l'objet d'un espèce de suivi, que le signalement va être retenu. Et puis il y a des enfants, un sur vingt, là, qui seront déplacés et de leur famille et vont se retrouver ailleurs. Ça veut dire que beaucoup d'enfants font l'objet de mesures. Et je vais en parler avec Katia Gagnon, qui a vu ce rapport-là. Bonjour, Katia.
Bonjour, Paul.
C'est à la fois beaucoup... En même temps, ça peut être rassurant de dire qu'il y a des signalements puis qu'il y a des adultes qui s'intéressent aux enfants, mais ça monte à un niveau de détresse élevé chez les enfants, quand même.
Ben, effectivement. Puis ce qui est difficile d'évaluer dans ces chiffres-là, c'est qu'on a peu de points de comparaison. Il y a peu d'études semblables qui ont été faites ailleurs, non seulement en Amérique du Nord, mais ailleurs dans le monde. Donc, on sait pas trop où on se situe là, par rapport à d'autres pays. Mais néanmoins, 18% des enfants signalés, je pense qu'on peut se dire que c'est beaucoup. 1 sur 10 pris en charge, ça veut dire que la sécurité et le développement de ces enfants-là sont jugés compromis. Ça veut dire qu'il y a vraiment des services de la DPJ qui sont donnés à cette famille-là parce que l'enfant va pas bien. Et puis, 1 sur 20 placés. Moi, je t'avoue pas, ça fait longtemps que je couvre ça. Ça fait presque 20 ans que je couvre la DPJ. Là, puis bon, j'ai jamais vu des chiffres comme ça, évidemment, parce que cette étude-là, elle n'a jamais été faite. C'est des vrais chiffres, des vraies données, des vrais dossiers de services sociaux compilés pendant 17 ans, par, tu sais, c'est entre 2000 et 2017, par des chercheurs qui en arrivent à ces chiffres-là. Donc, c'est vraiment des données solides. Là. C'est pas des projections, c'est pas des évaluations, c'est ça les chiffres au Québec. Donc, ce que tu sais, moi, j'ai de la difficulté comme journaliste à évaluer ça. Les chercheurs, ce qu'ils disent, c'est ça montre vraiment que on a au Québec une surdépendance à la DPJ, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de dossiers d'enfants qui se retrouvent dans la cour de la DPJ, qui sont des dossiers où, justement, tu parlais de pauvreté au départ, qui sont le résultat, justement, de problèmes qui relèvent davantage de pauvreté, qui devraient, ces familles-là devraient être aidées autrement, quoi.
Bon, je sais qu'on n'a pas le portrait là, détaillé, mais il y a quand même des éléments clairs, puis c'est pas surprenant de dire que il va y avoir plus de signalements, plus d'enfants qui vont être pris en charge dans des endroits où la pauvreté domine. Là.
Effectivement. C'est un constat qu'on pouvait se faire instinctivement en se disant, bon, dans les quartiers pauvres, il y a davantage de signalements. Les études en travail social le montrent que la défavorisation est vraiment un facteur de signalement. Mais là, ces chercheurs-là qui ont pris leurs données sur 17 ans et qui les ont reportées sur les secteurs de recensement, donc où on voit vraiment là, les indices socio-économiques précis, ils en arrivent à des chiffres très solides qui montrent que c'est presque 2 fois plus de signalements dans les quartiers qui sont considérés les plus défavorisés par rapport aux moins défavorisés. Donc, presque deux fois plus de signalements et presque 3 fois plus de placements. Donc, il y a un lien clair entre pauvreté et signalement ou prise en charge par les services sociaux qui est démontré par cette étude-là. Puis, ça pose beaucoup de questions au Québec parce que tous les chercheurs s'entendent pour dire que le Québec est l'État en Amérique du Nord probablement qui soutient le plus les familles, où le taux d'inégalité est parmi les plus bas, où le taux de pauvreté infantile est parmi les plus bas. Donc, même avec tout ce support-là, dans les quartiers qui sont défavorisés, on a quand même un recours à la DPJ qui est vraiment plus élevé.
Ce qui a été perçu longtemps là, quand on parlait de la DPJ comme une espèce de service d'urgence, là, un enfant qui est maltraité, un enfant qui est abusé, qui est négligé, dont la sécurité est compromise, est en train de devenir ou est devenu dans les faits une espèce de porte d'entrée pour beaucoup de parents qui sont découragés, qui n'ont pas de service, qui savent plus quoi faire avec un ado et qui décident de passer par la DPJ. Là, combien de cas, puis tu en as vu toi aussi, de gens, j'ai appelé la DPJ, je leur ai dit, je sais plus quoi faire avec, venez m'aider.
Absolument, Paul, tu as tout à fait raison, puis je pense que c'est la racine du problème, elle est là. C'est à la DPJ, là, c'est la protection de la jeunesse, là, c'est une loi d'exception. C'est une loi qui avait été faite pour les enfants qui sont maltraités, qui sont agressés sexuellement, où il y a les problèmes, tu sais, de vraiment de santé mentale des parents, ce genre de cas extrême là. Ce que cette étude-là démontre, c'est que c'est à peu près, c'est 50% des cas. Il y a 50% des cas où c'est de la négligence. Donc c'est des parents qui, pour toutes sortes de raisons ou un ensemble de raisons, sont pas capables de bien s'occuper de leur enfant, à tel point que les besoins de base de l'enfant ne sont pas rencontrés. C'est ces cas-là qui pourraient aller ailleurs s'ils étaient pris en charge plus tôt, si on avait plus de services de prévention, de dépistage. Puis là, comment dire, c'est un message, c'est une ritournelle qu'on entend beaucoup, toujours la même depuis des années. Il faut plus de prévention, il faut une première ligne efficace. Puis ça arrive. C'est comme si on n'est jamais capable de faire ça au Québec. On n'est jamais capable de concrétiser ça. Donc, ça continue. Puis là, un cas qui commence petit, continue s'il n'est pas pris en charge par quelqu'un, parce que, comme tu dis, la personne n'est pas capable d'accéder à des services ou il y a des listes d'attente. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ce cas-là se détériore. Et à un moment donné, entre dans la cour de la DPJ, parce que là, c'est rendu un cas plus extrême. Mais au départ, il n'aurait jamais dû se retrouver là.
Et il y a eu plus tôt cette semaine la sortie de la bâtonnière du Québec qui a dit que le système de justice pour les jeunes était comme le système général, c'est-à-dire frappé par le manque de ressources, le manque de juges, des procédures qui s'étirent, des décisions qui prennent du temps à être rendues, puis même des juges qui ordonnent, par exemple, des soins, des traitements, des suivis, pour découvrir après qu'on n'est pas capable de livrer la marchandise. Fait que ça vient un peu confirmer cette pression énorme là, sur la machine.
Oui, c'est ça. Parce que le système judiciaire, c'est le cas extrême en DPJ, ben il se rend devant les tribunaux. Pourquoi? Parce que les parents, disons, veulent pas collaborer ou pour toutes sortes d'autres raisons. Mais ces cas extrêmes-là, encore là, ils ont tellement traîné dans le système qu'ils se retrouvent devant les tribunaux, qui eux-mêmes se retrouvent engorgés. Donc là, on est dans un cercle vicieux là, dont il semble difficile de sortir.
Merci beaucoup, Katia. Bonne journée.
Toi aussi.
Au revoir. Katia Gagnon, qui est journaliste à la presse. C'est préoccupant, mais c'est vrai comme la DPJ a pris un rôle élargi depuis les dernières années. Revenons maintenant sur les affirmations du premier ministre Trudeau, voulant que des agents du gouvernement indien soient responsables, auraient organisé le meurtre d'un Sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, assassiné au mois de juin par deux individus. Il y en aurait un troisième qui aurait conduit le véhicule de fuite. Plusieurs coups de feu dans un stationnement. Et M. Trudeau, donc, a pointé du doigt l'Inde. Depuis cette déclaration, on a vu le président Biden dire être inquiet, mais en même temps, il y a des enjeux politiques avec l'Inde, donc il ne veut pas dénoncer. Il n'y a pas de pays qui, formellement, ont dénoncé l'Inde, pour la bonne raison qu'on est au niveau, maintenant, des allégations. L'enquête policière continue. Et il y a peu de détails qui émergent. On sait qu'aux yeux de l'Inde, la victime du meurtre était un terroriste, un séparatiste, et qu'il était venu au Canada trouver refuge dans ce que, pour beaucoup d'Indiens, le pays est considéré comme un havre de paix. Alors, la question qui revient beaucoup, c'est pourquoi maintenant M. Trudeau a décidé de faire cette sortie publique alors qu'il y a une enquête policière qui est en cours. Je vais en parler avec Richard Fadden, qui est l'ancien patron du Service canadien de renseignement et de sécurité. Et il a été aussi conseiller à la sécurité nationale pour les premiers ministres Trudeau et Harper. Monsieur Fadden, bonjour.
Bonjour.
D'abord, pourquoi, selon vous, le premier ministre fait une déclaration à ce moment-ci, alors qu'il y a une enquête policière, je le disais, là, qui est en cours?
Mais c'est une excellente question. Le mot qui se passe à Ottawa, c'est que il y a eu une fuite et le Globe and Mail, le journal de Toronto, avait l'intention de publier un article dévoilant tout ça. Alors, si c'est le cas, je pense que le gouvernement a simplement dit il faut prendre du devant et expliquer notre dossier avant que le Globe and Mail publie son article. Ça me semble vraiment une explication raisonnable parce que il n'y a pas beaucoup d'éléments positifs du point de vue du gouvernement fédéral de dévoiler le dossier de la façon que M. Trudeau l'a fait.
Mais en même temps, M. Trudeau est conscient des enjeux de faire une déclaration basée sur des informations. Il savait pertinemment que la réaction serait assez radicale de l'Inde et que ça le plaçait dans une position délicate avec les Américains.
Absolument, mais il est clair maintenant qu'il en avait parlé avec le premier ministre Modi. La conseillère de la Sécurité nationale du PM, le directeur du SCRS, avait fait plusieurs voyages en Inde pour essayer de discuter de la question. Et je pense qu'en bout de ligne, on a simplement décidé qu'il fallait en parler pour prendre un peu l'initiative. Mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'élément positif avec ça. Ça aurait été mieux si on avait pu poursuivre l'enquête criminelle. Ayant dit ça, je pense qu'il faut admettre que l'enquête criminelle peut aller seulement un petit bout plus loin. Avoir un procès criminel sur cette question au Canada, je ne pense pas que ça va se passer. Si, effectivement, le meurtre a été conçu, organisé et coordonné en Inde, il est absolument certain que la GRC ne sera pas invitée à poursuivre son enquête en Inde. Alors, si on ne peut pas acquérir des informations nécessaires pour une poursuite criminelle, il n'y aurait pas de procès criminel au Canada. Alors, j'espère que la gendarmerie va continuer ses enquêtes, mais je suis loin d'être optimiste sur la possibilité d'avoir un procès criminel au Canada. Alors, on est, si c'est le cas, on est maintenant limité aux échanges diplomatiques.
Bon, quand on informe le premier ministre sur une situation comme celle-là, est-ce que ça veut dire que M. Trudeau, par exemple, aurait pu être informé de dossiers, enfin de détails, pardon, plus précis sur l'enquête policière en cours? Autrement dit, est-ce qu'on aurait dit à M. Trudeau, on a identifié 3 suspects, voici qui sont-ils, voici les liens avec le gouvernement indien, on ne peut pas encore les arrêter à ce stade-ci, on est toujours en processus d'enquête, mais nous savons qui a fait ça.
Question difficile à répondre. Premièrement, comme vous le savez, au Canada, Québec, partout, les enquêtes policières sont indépendantes. Alors, si la police ne veut pas dévoiler leurs détails, on ne peut pas les contraindre. Si j'avais à deviner qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu une collaboration entre le SCRS et la police. Ils ont échangé les informations, quelques informations au moins. Le SCRS a eu son enquête indépendante et je crois que l'option préférée aurait probablement été au SCRS de préparer un dossier basé sur toute l'information à laquelle ils avaient accès. Et si le premier ministre aurait voulu des détails spécifiques, il aurait demandé au SCRS plutôt qu'à la police.
Est-ce que des services de renseignement étrangers collaborent à un dossier comme celui-là? Autrement dit, est-ce que des Américains, est-ce que les Britanniques peuvent avoir joué un rôle dans la cueillette d'informations?
S'il y avait un lien dans l'enquête, oui. Sans l'enquête, non. Je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de lien avec les Américains ou les Britanniques. Alors, sans ce lien, par exemple, si on pensait que les gens qui ont commis le meurtre ont décidé que la façon la plus facile d'échapper à la justice canadienne, ce serait d'aller à l'État de Washington, absolument. Mais on n'a aucun indice couramment qu'ils ont un lien avec les États-Unis. Alors, sans ce lien, dans le contexte de l'enquête policière, je ne pense pas. Ce qui ne veut pas dire, par contre, qu'une fois que l'enquête est en cours et que le SCRS en particulier a son enquête indépendante, ça ne veut pas dire qu'on ne demanderait pas à tous nos alliés « Est-ce que vous avez des informations? » Mais c'est pas la même chose que collaborer d'une façon active.
Avez-vous l'impression que ça va durer des semaines et des semaines, pour ne pas dire des mois, avant d'avoir une réponse pour déterminer si oui ou non les allégations étaient fondées, que ça va donner lieu? Je voyais là, les étudiants étrangers venant de l'Inde, c'est 40% là, au Canada. Puis on les met en garde contre la montée de la haine, du racisme, de la violence. ça va être tendu entre les deux pays tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas, on connaîtra pas tous les faits?
Honnêtement, je pense qu'il va falloir qu'on soit réaliste. Si on n'a pas un procès criminel au Canada, et je ne pense pas qu'on va avoir un procès criminel au Canada, qui permettrait de ressortir toutes les informations, les échanges diplomatiques entre l'Inde et le Canada, par convention internationale, ça demeure confidentiel. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on accepte que les informations qu'on aurait voulu avoir dans un meurtre traditionnel, si c'est le mauvais mot, mais quand même un crime ordinaire, on ne l'aura pas dans ces cas-ci. L'Inde absolument va refuser de collaborer, je suis absolument persuadé. Nous, laisser sortir les informations qu'on a, ça peut dévoiler les sources, ça peut dévoiler des méthodes de collecte, chose qu'on ne fait pas. Alors, j'ai l'impression que tout le monde, vous et moi inclus, on va être un peu frustrés, parce que je ne pense pas que les informations vont ressortir comme on l'aurait peut-être espéré. Mais est-ce que ça va durer un bon petit bout de temps? Je pense que oui. Je ne sais pas si vous avez eu la déclaration du ministère des Affaires extérieures de l'Inde hier. Ils ont dit, mais c'est intéressant, tout ça. Le Canada ne nous a fourni aucune information concernant ces allégations. J'ai de la difficulté à croire que la conversation avec le premier ministre Modi, les conversations entre les fonctionnaires, qu'on n'a pas partagé des informations. Alors déjà, on commence à perdre un peu le fil. La question substantielle, c'est est-ce qu'il y a eu une initiative indienne retouchant le meurtre à Surrey? Tout à part de ça, c'est simplement des éléments extérieurs qui vont compliquer nos relations avec l'Inde pour, je dirais, un bon bout de temps.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Richard Fedden est l'ancien patron du Service canadien de renseignement et de sécurité, conseiller aussi à la sécurité nationale pour les premiers ministres Trudeau et Harper. Revenons sur ces manifestations, Montréal bien sûr, mais ailleurs au Canada, Ottawa, pour l'identité, le genre, et deux groupes de manifestants se sont affrontés. Des gens qui, d'un côté, revendiquaient ou non des minorités sexuelles, et de l'autre, des gens qui avaient tellement peur que leurs enfants soient contaminés, qu'ils avaient peur qu'il y ait une espèce d'agenda pour transformer leurs enfants. Puis on retrouvait, en tout cas à Montréal, des gens qui, par exemple, ont été vus pendant tout le mouvement complotiste au sujet de la COVID. On a vu aussi des gens de droite, mais de droite religieuse. Il y a, un drôle de sentiment quand vous observez les manifestants. Puis, ce qui est aussi frappant, ce sont les propos de certains. Je fais entendre Maxime Bernier, qui, j'ai entendu ça à TVA, puis j'ai dit, faut que je partage ça pour les gens qui l'ont pas entendu, là. L'espèce de raisonnement de Maxime Bernier est assez inquiétant.
Ça n'existe pas. Un jeune garçon est un jeune garçon, une jeune fille est une jeune fille. Et plus tard, peut-être en grandissant, ces jeunes-là vont devenir gays ou lesbiennes.
Je pense que c'est mal connaître, comme on dit, ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes, des enfants qui ont un malaise, des gens qui sont homosexuels, qui le savent très tôt, mais qui ne sont pas capables de le définir, qui ne sont pas capables de l'exprimer. C'est une chose. Et il y en a d'autres qui essaient maintenant d'exprimer genre identité à l'école, par exemple. Et comment on gère ça? Je vais en parler ce matin avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui, comme bien des Québécois, je dirais, se pose des questions et a sûrement pas toutes les réponses. Monsieur Blanchet, bonjour.
Bien le bonjour.
J'ai l'impression que vous aussi, vous êtes en mode recherche d'informations pour vous faire une tête sur le sujet.
En fait, j'ai très envie que tout le monde se calme un peu. J'ai trouvé ça déplorable qu'avec des affirmations comme s'ils détenaient la vérité dans ce genre d'affaires-là, d'abord des groupes qui ont une opinion arrêtée qui ne changera pas, avec à l'autre extrémité un autre groupe qui a une opinion arrêtée qui ne changera pas, alors que la grande majorité entre les deux sont peut-être comme moi, je me pose des questions, je pose des questions aux gens. Je me serais pas permis comme chef de parti de faire comme Jack Meeting et d'aller appuyer sans nuance un bout du débat, une extrémité du débat, ou comme Maxime Bernier, à l'autre bout. On n'en est pas là, on est des élus, pas dans le cas de Maxime Bernier, mais on est des élus, on a une responsabilité, un devoir d'un certain recul, protéger l'individualité, l'identité, la détresse de certaines personnes. Je pense que c'est extrêmement important. Et tracer la ligne jusqu'où une société doit aller dans sa propre transformation en termes de système de santé, parce que c'est pas rien les enjeux de santé là-dedans, en termes d'éducation, en termes d'autorité parentale à l'école, en termes de toilettes publiques, en termes de prison, en termes d'équipes sportives avec les gens de genre différents ou singuliers qui veulent aller dans l'autre équipe. Il y a beaucoup d'enjeux et il y a des experts à qui on doit parler, pas des experts tous du même bord, là. Des gens qui ont fait de la science là-dedans. Ma fille étudie dans un secteur connexe à ça, puis quand j'y parle, elle étudie en études féministes à l'Université Concordia. Donc, pour bien du monde, c'est un leader woke, mais je parle à une jeune femme responsable et modérée, mais je parle aussi à des gens qui sont à l'autre bout de ce spectre-là, puis je dis, j'ai pas la compétence aujourd'hui pour trancher. Est-ce qu'on peut se donner ça comme société?
Qu'est-ce qui... En fait, vous chicotez le plus, c'est-à-dire là, vous avez énuméré là où le débat va se faire, là, sur les questions sur lesquelles on va le faire, là. Mais qu'est-ce qui vous fait hésiter? Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre le plus?
Deux choses. Un, où on met la ligne? Ces gens-là ne sont pas nombreux. Ils sont légitimes comme n'importe qui d'autre, mais ils ne sont pas nombreux. Dans quelle mesure? Exemple, on fait des transformations profondes dans le système de santé, peut-être parfois à l'encontre de la science médicale, pour accommoder des gens qui vivent une détresse. À quel moment on passe de la psychologie à la médecine? Et ça, je pose la question, là, je ne connais pas la réponse. L'autre élément, c'est est-ce que les parents sont toujours équipés pour accompagner, cautionner, entériner ou s'objecter à la volonté ou à la décision des enfants? Lorsqu'on dit que dans une école, les profs sont obligés de changer la façon dont ils appellent un jeune qui a décidé qu'il n'était pas un homme, mais une femme, ou le contraire, ou ambigu entre les deux. Jusqu'à quel point est-ce que les parents ont rien à dire là-dedans quand l'enfant a 8 ans ou 11 ans? J'ai pas la réponse. Ça m'inquiète comme parent ou comme responsable de certains enjeux dans une société.
Mais, par exemple, qu'un jeune se pose des questions ou affirme une nouvelle identité ou un nouveau genre, c'est une chose. Mais je pense qu'il y a un consensus assez large pour dire qu'il ne peut pas procéder avant d'avoir 18 ans à des transformations physiques réelles, irréversibles. C'est le genre de nuances puis de discussions qu'il faut faire, là.
Je suis convaincu qu'il faut faire ces discussions-là. Je suis convaincu que pour l'instant, la partie idéologique de ça, que les adversaires définiront comme du recrutement, là. Moi, j'irai pas jusque-là, mais il y a des gens qui veulent défendre les droits de ceux qui sont mal à l'aise dans leur corps ou dans leur identité sexuelle, en disant qu'il faut aller en parler dans des écoles primaires à des jeunes qui sont très jeunes. Et là, moi, je vois pas là, mais il y en a qui vont dire que c'est une manière de convaincre, de recruter ou d'influencer ces jeunes-là. Bon, prenons un pas de recul, voyons voir. Est-ce que le fait d'être exposé à ça va susciter une simple et normale tolérance? Est-ce que ça va être un incitatif? Est-ce que ça va faire en sorte que des jeunes vont se poser des questions sur eux-mêmes? Tu sais, dans le consensus social, je vois deux choses. Beaucoup de gens qui disent, ben voyons donc, c'est quoi ces affaires-là? Là, ça, c'est peut-être un manque d'ouverture. Et beaucoup de gens qui disent, est-ce qu'on peut faire ça avec un peu plus de distance, un peu plus de lenteur? Parce que les Québécois sont traditionnellement très ouvert à tout, sauf que quand ils bousculent trop, ils se braquent, ils virent de bord, ils disent, OK, c'est fini les niaiseries.
Mais des fois, j'ai l'impression, j'ai l'impression, M. Blanchet, qu'on retourne à l'époque où l'homosexualité était interdite, puis qu'on avait peur d'attraper l'homosexualité si on croisait un homosexuel sur la rue ou dans une classe à l'école. C'est comme si, là, on se dit, là, les enfants, les dragues qui vont dans les écoles, ils vont dans les bibliothèques, les parents ont le choix, si tu veux pas comme parent, on te l'impose pas. C'est que, c'est comment je dirais ça, il y a beaucoup de désinformation autour de ça.
Il y a beaucoup de désinformation autour de ça, puis il y a, comment dire, que la société, que les jeunes soient exposés, qu'ils sachent que ça existe, qu'ils vivent avec cette réalité-là dans leur environnement, c'est une chose, je pense que c'est inévitable. Moi, je vis très très bien avec ça, mais que, parce qu'il y a des radicalisations militantes qui ne sont pas basées sur une science démontrée, surtout en médecine, ben ça va braquer du monde, ça va inquiéter du monde. C'est pour ça que les extrêmes, je veux pas dire extrêmes gauche ou radicales ou rien de genre, mais les périphéries, les deux bouts de ce débat-là doivent prendre une grande respiration pour que l'ensemble de la société pose les questions que vous posez avec ouverture, avec générosité et en tenant compte du fait qu'il y a une différence en pur nombre, en pure statistique,
bon, mais là,
entre le nombre de personnes qui sont homosexuelles, gays, lesbiennes et la déclinaison, et ceux qui sont qui ont une volonté de changement de genre ou de sexe. Ça, c'est quand même pas beaucoup de monde, là.
Non, mais c'est ça. Et ça revient à une forme nouvelle d'accommodement raisonnable. Vous avez le droit de le demander. Est-ce que c'est raisonnable de vous l'accorder compte tenu du nombre, compte tenu de ce que ça peut impliquer? Ça va être du cas par cas à chaque demande qui pourrait être faite.
J'ai fait le même raisonnement que vous avec le même mot « accommodement raisonnable ». À quel moment dans le système d'éducation, le système de santé, le service de garde, les toilettes publiques dans des institutions publiques parce qu'un restaurant fermé comme il voudra, à quel moment, dans l'utilisation du pronom « yel », à quel moment, comme société, on est obligé où on arrête d'être obligé parce que l'accommodement n'est plus raisonnable? À quel moment on dit « tu peux pas me reprocher de ne pas avoir deviné l'identité qui est désormais la tienne » parce que morphologiquement, a priori, je pense que t'es un homme ou je pense que t'es une femme sans mauvaise volonté. Mais là, si oups, tu devines mal, tu te le fais reprocher. Il y a une espèce de limite. Dans le quotidien, ça se passe très bien, je pense. Moi, ça, dans ma vie, à moi, ça se passe bien. Mais comme société, la question se pose.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et François Blanchet, qui est le chef du Bloc québécois.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons maintenant de l'aéroport Montréal-Trudeau. On a eu l'occasion, depuis le début de la semaine, de mettre en évidence des problèmes graves, récurrents, qui font que le touriste qui débarque à Montréal se heurte probablement à un des pires aéroports en termes de fonctionnement. Qu'il y ait une attaque informatique qui paralyse les services transfrontaliers, c'est une chose, c'est un événement ponctuel, mais qu'il y ait des attentes chroniques, que le simple fait de vouloir se rendre à l'aéroport peut prendre une heure et demie, il y a quelque chose de délirant. Et l'autre aspect, c'est que personne ne semble responsable. Est-ce que c'est Aéroport de Montréal? On nous réfère aux services frontaliers, on nous réfère aux compagnies aériennes. J'en parle ce matin avec le ministre des Transports, Pablo Rodriguez. Monsieur Rodriguez, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Est-ce que c'est le pire aéroport, celui de Montréal?
Je ne sais pas. Je sais que c'est compliqué. C'est compliqué à Montréal. Et pour répondre à votre question, qui est responsable, je dirais un peu tout le monde. C'est pour ça que je multiplie les rencontres depuis que je suis là. Ça fait 2 mois que je suis là. Je rencontre les aéroports, je rencontre CATSA, la compagnie de sécurité, NAF Canada, qui sont les contrôleurs, les compagnies aériennes. J'essaie de comprendre aussi comment ça fonctionne.
Mais j'allais vous dire, quand c'est un peu tout le monde, il n'y a rien qui se passe.
Ben, c'est parce que quand c'est tout le monde, c'est que tout le monde doit faire un petit peu mieux. Et encore une fois, moi, j'essaie de comprendre. J'ai demandé même d'aller fouiller, d'aller voir en bas d'un sous-sol comment les voyages, comment les valises voyagent, etc. Ce qu'il faut pas faire, et vous le dites, vous avez raison de le dire, il faut pas se pointer du doigt. Là. Il y a un paquet de problèmes, il faut régler ce paquet de problèmes-là.
OK, mais comment vous allez faire ça?
Ben, en comprenant comment ça se passe, 2, en mettant le monde ensemble, 3, que les gens réalisent qu'ils ont leur bout de faire, puis pas de pointer du doigt. Tu sais, comme hier, j'entendais dire, ben, c'est la faute des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Il y en a à peu près 100 par jour, puis ils ont leur propre liste. Moi, je vais poser des questions. Je rencontre justement Aéroport Montréal aujourd'hui. C'était prévu depuis un bout. Pourquoi 100 personnes viennent causer autant de problèmes? Je ne sais pas.
Eux prétendent, Aéroport de Montréal, qu'ils sont, entre autres, sous-financés par rapport à d'autres aéroports de même taille. Que les aéroports au Canada, depuis la pandémie, manquent d'argent. 1. 2. Aux services frontaliers, là, d'après ce que je comprends, il manque de personnel. Donc, moins de gens disponibles pour accueillir les visiteurs. Puis, on a un problème d'infrastructure qui fait en sorte que pour se rendre à Montréal-Trudeau pour aller reconduire quelqu'un, ben, ça peut prendre une heure. C'est plus long de la sortie d'autoroute à l'aéroport que de Laval à aller jusqu'à la sortie d'autoroute. C'est 3 exemples que je vous donne, là.
Ah oui, puis vous avez raison. Je l'ai vécu moi-même 2 fois récemment. C'est l'enfer. Là. Dès que vous sortez, la sortie vous prend un temps énorme. Là. Soit vous allez vous stationner, puis c'est compliqué, ou soit quelqu'un vous laisse au débarcadère, puis c'est tout aussi compliqué, sinon plus. Là, vous avez 3 phénomènes qui arrivent en même temps. La construction du REM, la construction sur la 520, la construction sur la 20 aussi. Il faut trouver une façon de faire mieux à ce niveau-là. Absolument. Absolument. Parce que c'est l'image, hein? C'est le point d'entrée ou de sortie de l'aéroport. C'est ça, c'est l'image que les gens ont de Montréal. C'est poche.
Est-ce que c'est vrai que les aéroports sont sous-financés?
Ben, c'est-à-dire que c'est géré par des sociétés autonomes. Donc, ADM gère l'aéroport. Nous, on est propriétaire du terrain. Nous, d'État Transport Canada. Propriétaire du terrain des infrastructures. Et on loue ça à ADM. ils nous paient un loyer, puis eux gèrent la patente. Donc, ils chargent les compagnies aériennes pour atterrir, pour décoller, ils chargent pour le stationnement, ils chargent pour les concessions. Donc, ils ont leur propre revenu et ils nous paient un loyer pour ça. Nous, on investit au niveau des infrastructures.
OK, mais c'est justement, ils prétendent qu'il n'y en a pas assez.
Ben ça, je vais regarder ça aussi, voir si. Mais en même temps, ça peut pas être que les infrastructures. Là. Mais je veux dire, il faut qu'on fonctionne, que tout le monde fonctionne. Il faut qu'il y ait assez de monde à la sécurité pour accueillir les gens. Il faut qu'il y ait assez de contrôleurs aériens pour que l'avion n'aille pas sur la piste. Il faut qu'il y ait assez de gens pour accueillir les gens à la frontière. Puis est-ce que ça prend plus d'infrastructures? Je vais regarder ça aussi. Mais c'est un ensemble.
Allez-vous trouver, je dirais, la recette magique pour faire en sorte que ce monde-là, qui ne se parle visiblement pas depuis des mois, pour ne pas dire des années, vont finir par aligner quelque chose qui a de l'allure, que la STM va offrir un service moderne de navette vers le centre-ville, qu'il va y avoir des douaniers qu'on ne sera pas en troupeau en haut de l'escalier pendant 2 heures parce qu'on a eu le malheur d'arriver en après-midi, alors qu'on sait exactement combien il y a de vols, combien il y a de passagers qui arrivent chaque jour, chaque heure à l'aéroport. Il y a des incompétents là-dedans aussi, là.
Oui, puis un manque de partage d'informations. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'important aussi, un projet de loi qu'on a mis de l'avant là, au Parlement pour que les gens se communiquent mieux. Je suis pas certain que tout le monde sait que combien d'avions partent, par exemple. Je suis pas certain que la compagnie de sécurité connaît le nombre de passagers par compagnie aérienne. Donc, ils se disent, bon, mais t'as une coupe de 777, de 737 qui part, on va amener plus d'agents. Moi, de ce que je comprends, en posant des questions, c'est que toutes ces informations-là ne sont pas partagées. Et on a un projet de loi qui va faire en sorte que ça les oblige à mieux partager l'information.
Hey, mais c'est rendu grave, là. Ça vous prend un projet de loi pour obliger du monde à se parler?
Mais oui, des fois, oui. Malheureusement, oui, M. Arcand.
OK. Je veux vous parler de la Charte des voyageurs qui a été adoptée par votre gouvernement, présentée par M. Garneau à l'époque, qui est bien gentil. Là, il n'y a pas trop d'éléments coercifs là-dedans. Mais je vais vous donner un exemple ce matin, puis je vous dis, là, c'est pas un piège que je vous tends, là. Je veux juste vous tenir au courant de ça. Il y a la compagnie Flair Airlines qui organise des vols. Puis je vous raconte un cas d'une personne qui achète des billets pour aller dans l'Ouest canadien au mois de novembre. Au mois d'août, ils reçoivent un courriel de la compagnie qui les informe que le vol est annulé. C'est la décision de la compagnie. Et là, on entre dans la maison des fous. Courriel, pas de réponse, on va vous rembourser, l'argent est pas remis. Et là, c'est long, là, puis c'est un échange compliqué. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que la personne chez Flair a dit à ce client québécois qu'il devrait envoyer un courriel en anglais parce que si c'est en français, le traitement va prendre plus de temps.
Ouais, ça c'est totalement inacceptable.
Mais c'est ça que
j'étais pas au courant de ça, mais c'est complètement inacceptable. C'est pas la compagnie qui a le meilleur service à clientèle non plus, je vous dirais, indépendamment de la langue. Là, c'est... Puis ça fait partie des compagnies que je dois rencontrer. J'ai rencontré plusieurs d'entre eux. Là, c'est un prochain service. Mais ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a un problème inacceptable. Les droits, c'est des droits indépendamment de la langue de la personne.
Ça peut pas être plus long de me faire un chèque parce que j'écris en français que si j'écris en anglais, là.
Non, pas du tout.
Puis l'autre affaire, là, est-ce que dans vos rêves, vous pensez donner un peu de tonus à la charte? Parce que c'est compliqué, c'est long, puis j'ai l'impression... Je regarde l'Europe, là. La même personne est allée en Europe, un vol annulé, ça a été de toute beauté. Il y a eu une allocation, un montant pour le dédommagement. Ils sont partis avec 4h30 de retard, puis ils ont envoyé en dollars canadiens un chèque de 900$ à la personne.
Oui, on regarde ce qui se fait en Europe aussi. Dans la charte, on a augmenté les amendes qui sont imposées aux compagnies aériennes, quand ils volent les droits des passagers. On essaie aussi de rendre plus simple la procédure là pour faire une plainte. Puis on essaie aussi de limiter le nombre de raisons que les compagnies peuvent invoquer pour ne pas payer. Par exemple, oui, s'il y a une tornade, je sais pas quoi, bon, okay, cause naturelle. Mais s'ils manquent d'employés, moi je leur dis wow, ça c'est votre faute. Ça, c'est votre service des ressources humaines qui engage du monde. Fait que sachez que vous n'avez pas de monde, puis assez de monde, puis mettez-en là. Donc, on essaie de limiter les excuses pour payer.
En terminant, M. Rodegrin, c'est-tu plus compliqué, faire face à Facebook, Google, Meta, puis tout ce monde-là, ou ben donc Air Canada, Aéroport de Montréal, puis les services frontaliers?
Ben, je les mets un peu dans le même paquet, là.
Bonne journée avec les gens de ADM.
Merci beaucoup.
Au revoir. Pablo Rodriguez est le ministre des Transports. On n'est pas sorti de l'auberge. J'aime beaucoup ce que la presse a écrit, là, les 7 plaies de l'aéroport de Montréal ou la liste des problèmes. Puis là, ça inclut la STM. Puis ça inclut évidemment les services frontaliers puis la capacité des compagnies. Tu sais, je vous donne un exemple aussi. Là, les compagnies, quand on voyage, là, puis qu'il y a un enjeu, puis que t'es pas capable de parler à aucun représentant, puis d'aller au comptoir, je connais quelqu'un qui s'est arrivé, puis il s'en va au comptoir en disant, écoutez, peux-tu me trouvez-vous une place sur un autre vol? Non, non, faites ça en ligne. Non, mais c'est pas ce jet-là, là. On peut pas le faire. On n'est pas équipé pour le faire. Ou c'est pas dans mon mandat de le faire. Alors, voilà pour le dossier de l'aéroport.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.